Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous allons ce soir terminer ensemble dans nos lectures en liberté la lecture de ce récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs. Vers la mer. Le 17 octobre, en Champaigne. Passé Truille, je reliais entre elles les parcelles forestières, traquant les vestiges de chemins noirs. C'est un destin de bête que de naviguer de bosquets entaillis. Avant la hache de pierre des sociétés défricheuses, nos ancêtres avaient connu de déplacements dangereux, de grottes en abri, sauts de puces au milieu des océans forestiers où vaquaient les hyènes. Puis l'homme avait soumis le monde, et l'équation s'était inversée. Désormais, la forêt était en miettes, et c'était au tour des animaux de chercher ce qu'il restait de cache dans un espace ouvert. Un archipel en négatif s'était dessiné. C'était un pays plat, plus familier, plus doux, moins cabré que les sculptures de calcaire de la Vésubie, avec des sentiers sablonneux et des reliefs comme de grandes caresses de la paume. J'y trouvais des villages dont j'étais le familier, endormis et ramassés autour de leurs souvenirs. Il n'y avait pas ce coup de poing du soleil sur les choses, ni cet air colérique de la nature provençale. Je savais que j'arriverais au bord de la mer. Le cheminement était complexe dans les chasses gardées. L'hygiène ne signalait pas tous les chemins privés. Clôtures et panneaux me refoulaient, chemins privés, propriétés privées. Je suivais d'autres nefs traversées de chevreuils, mais le chemin soudain butait sur des barrières où s'affichait cette précision, accès strictement interdit, dernier avis. Foutre du diable. Cela ne plaisantait pas dans la Touraine depuis que Jeanne d'Arc avait secoué le pays. Quand je passais devant une parcelle grillagée où les écriteaux annonçaient un verger sous vidéosurveillance, je compris que j'étais entré dans l'orbite de la ville. Tours approchait. Des villes comme des planètes, leur gravitation attire les météores, mais à trop s'en approcher, on entre dans les zones de turbulence. J'avais décidé de contourner Tours par l'est. Il me suffirait de passer la Loire à la hauteur de Vouvray et de gagner Monet. Le plateau entre l'Indre et le Cher se mouchetait de lotissements, de hangars, de ronds-points. Voilà 2 mois que je baguenaudais entre ce mobilier, tâchant de le masquer à ma vue. Cette fois, je n'y parvenais plus. Les chemins noirs au moins avaient cette vertu, ils sinuaient entre les verrues des plans d'occupation des sols. Il fallait que les hommes fussent drôles pour s'imaginer qu'un paysage eût besoin qu'on l'aménageât. D'autres parlaient d'augmenter la réalité. Un jour peut-être s'occuperait-il d'éclairer le soleil. Le 18 octobre, par-dessus la Loire. L'approche du Cher fut un gymkhana. D'est en ouest, le long de la rivière, fusaient les lignes ferroviaires et les nationales, axones de la civilisation du flux. La grande affaire de l'époque se déplaçait vite et beaucoup. Moi, j'allais à pied du sud au nord, perpendiculairement aux lignes de transit. Il y allait avoir beaucoup de ponts à passer dans les prochaines heures. Une guirlande de montgolfières était accrochée dans le ciel au nord-ouest, au-dessus de la Loire. J'imaginais des Américains flottant dans la félicité, buvant du chinon dans de très grands verres à pied et se félicitant que la région n'ait pas encore été bombardée. Combien de temps restais-je sur le pont de Mont-Louis, hypnotisé par les remous de la Loire? Ils écumaient entre les piles de pierre. Le courant invitait aux aventures. Et ce fleuve de sable et ce fleuve de gloire, comme disait Peggy, appelait à sauter. Cela, il ne le disait pas. L'eau venue du massif Auvergnat se diluerait dans l'Atlantique. Je passais le pont en longeant les rails du chemin de fer. Sur la rive droite, le plateau de Vouvray portait les vignes et j'allais retrouver là un paysage amical. En Provence, le vin était le sang de la roche frappée de soleil. Ici, une lymphe de sable fécondée par les brumes. Les flancs du plateau tombaient en courtes falaises percées de caves. C'était une alchimie qui me ravissait, celle de la vigne et du vide. Le vin m'était interdit, mais je pouvais encore m'enivrer du vide. La forêt étendue au sud de Monet allait accueillir mon bivouac. Il me fallait d'abord passer l'autoroute sur un pont et je rêvassais longtemps, accoudé aux rambardes, l'œil fixé sur l'écoulement des véhicules. Un jour peut-être, lorsque la dernière goutte d'hydrocarbure serait épuisée, le balai finirait subito. Il faudrait alors être là, aux loges d'un pont d'autoroute. Le flot ralentirait, cesserait, les portes s'ouvriraient, les automobilistes sortiraient de leur voiture, se salueraient, l'air éberlué, et continueraient à pied. Je fus dans le bois avec les dernières lueurs. Je fis le feu, monter la petite tente que m'avait laissée Gouasque et dîner sous le couvert des chênes. J'avais à disposition tous les éléments pour les nuits protectrices. Le soir faisait frémir la forêt. Le râle de l'autoroute parvenait jusqu'à la clairière. La bête se savait menacée. Le mouvement perpétuel à 2 euros le litre ne pouvait pas durer éternellement. Le 19 octobre, par la Gâtine Tourangelle. La nuit avait été bruyante. On circulait dans les forêts tourangelles. Des bêtes avaient fourragé les baliveaux. Les feuilles tombaient, la forêt craquait, les arbres pelaient. Ce fut ma première aube de gelée blanche. Les feuilles du sous-bois crissèrent jusqu'à Monet. Suivirent 5 jours dans la plaine à me brûler les yeux sur le 25 000e. Passer les voies ferrées, longer les lisières, couper les lignes à haute tension, saluer les tracteurs, traquer les sentiers noirs, mon beau souci et mon grand jeu. Le soir, les petits hôtels animés dans le centre des bourgs me changeaient du bivouac. Ce furent mes nuits d'Aubigné-Racan, Maillet, Malicorne et Chevillé. Parfois des êtres humains. Ils étaient rares et aimables. Il y en avait à la promenade, aux lisières tirées par des chiens. Au moulin de Fresnay, je croisais un braque qui donnait à son maître l'occasion de marcher. L'homme était fils des lieux. J'ai connu le moulin en fonction. Mon père apportait le blé et on payait le meunier en farine. Et aujourd'hui ? Il eut un hoquet ironique, comme si j'avais pu croire un instant que la roue tournait encore. Dans la forêt cuivrée, au-delà de Maillet, se dressaient des menhirs. Des allées siliceuses glissaient entre les pins vers le nord-ouest. À Saint-Martin, Le troquet appartenait à une magnifique araignée humaine vêtue de dentelles noires, plâtrée de maquillage. On demandait son jus en espérant qu'elle vous jette un sort. Deux frères à tête ronde s'imbibaient, se soutenant l'un l'autre dans un tendre geste. Au mur, des bêtes empaillées, une chouette, une corneille, un lairot. La duègne me laissa dormir la tête sur la table, puis vint me réveiller pour y passer un coup de torchon afin que je dorme mieux. Le 22 octobre, dans la champagne mancelle. Les jours se répétaient, le paysage changeait imperceptiblement. Seule la politique du territoire y avait imposé ses variations. Il y aurait eu un tableau des cercles concentriques à brosser après une marche pareille. Dans les bourgs du Guin-Michelin, le centre-ville était charmant. L'église restaurée et une librairie s'inauguraient parfois devant le salon de thé. Woody Allen aurait pu tourner son film habituel. Ses acteurs auraient trouvé que la province est une fête et que le débarquement avait valu la peine. Venait le deuxième cercle, le quartier pavillonnaire. Un monsieur y tondait sa pelouse en pyjama. Il avait fini de laver sa voiture. Une affiche signalait la disparition d'une vieille dame affligée d'Alzheimer. Le troisième cercle apparaissait, commercial. Le parking était plein, le supermarché jamais fermé, les promotions permanentes sur le jarret. Plus loin, un rond-point distribuait les points cardinaux et l'on gagnait les champs, les hangars, à machines et des bois où les sangliers attendaient l'ouverture de la chasse. Tout cela prouvait une chose. Avec des efforts, même le français réussit à ordonner le monde. La seule défaite de ces journées résidait dans le fait de s'approcher des élevages de volailles. C'étaient des hangars concentrationnaires, suant la souffrance. Les poulets y attendaient la mort sans bouger, sans voir jamais le ciel. De belles voitures étaient garées devant ces usines de matériaux vivants. Il fallait bien que la concentration profitât à quelqu'un. Mon nez ne percevait plus l'odeur qui émanait des lieux, mais j'en savais le parfum acide. Souvent, si je commettais l'outrance d'approcher de trop près les installations pour couper par les champs et gagner 1 ou 2 kilomètres, les gardiens de zone me refoulaient sans amabilité. Peut-être détectaient-ils chez moi le Parisien prompt à critiquer le paysan avant de s'enfiler son poulet grillé. Dans la même journée, je passais par-dessus la Sarthe, noire, sensuelle, couverte de poudre couleur pyrite. L'autoroute, l'océane, disait-il, et une voie de train à grande vitesse en construction dont je comprenais l'utilité. Il fallait rajouter une ligne au réseau pour se précipiter vers des lieux qu'on serait pressé à nouveau de quitter.
Je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Aujourd'hui je t'aime, oui mais demain, on ne peut jamais être sûr de rien. On va toujours seul sur la route, je continue coûte que coûte. Et puis une route en croise une autre, et puis une autre et encore une autre. Pourvu que la tienne, oh mon amour, croise la mienne tous les jours.
Je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Et je suis une cigale, t'inquiète fourmi, je crève pas la dalle. La musique c'est un bon gagne-pain, où que je sois, je manque de rien. Je chante toujours de quoi grailler, de quoi trinquer, de quoi causer. Je m'endors où il fait sommeil, et je passe l'été au soleil.
je ne sais pas où je vais. Oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Un jour ici, l'autre là-bas, la SNCF ne m'aura pas. Et toi qui n'as qu'une seule adresse, oh pauvre, si tu veux, je t'en laisse. Mais échange de mon procédé, si tu veux bien m'héberger, ben je serai le bienvenu,
ben nous serons les bienvenus. Je ne sais pas où je vais, oh ça je ne l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Je ne sais pas
où je vais,
je ne sais pas
où je vais,
je ne sais pas
où je le savais,
mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Sylvain Tesson, sur les chemins noirs. Le 24 octobre, par le pays de Laval. J'approchais de la ville et entrant dans Etram, je demandais un viandox à la patronne d'un café. Bah, « Qu'est-ce que c'est ? » dit-elle. « Un bouillon ? » dis-je. « Bah, jamais entendu. Où trouvez-vous cela ? » ?»« Partout. À Brûlon, ils m'en ont servi un hier. » « Mais c'est dans la Sarthe, ça, » dit-elle. « Ça ne m'étonne pas d'eux. » La Mayenne m'offrit sa tendre allée deux jours durant. Le chemin de halage était aménagé par la direction du cadre de vie. Fallait-il être vertueux pour occuper pareille fonction ? Les berges perdaient un peu en romantisme ce qu'elles gagnaient en propreté. Il ne se serait pas agi de faire l'amour dans les hautes herbes, mais on pouvait rejoindre Laval sans quitter le bord de l'eau. Laval, où je restais un jour allongé sous mes rêves, avant de reprendre le chemin des berges. La rivière était lente, et sous ses reflets d'obsidienne, on imaginait des brochets carnassiers menés de terribles chasses. Une joggeuse opéra un demi-tour paniqué au moment où elle me vit. Je n'osais pas regarder mon reflet dans la rivière. À Andouillé, je m'intéressais à une innovation installée au pied de l'église, une machine à distribuer le pain qui remplaçait la boulangerie. On mettait 1 euro dans la fente, on avait sa baguette. La machine avait été vandalisée. Moralité à la française, quand il manque de pain, le peuple se révolte. Quand il manque de boulangère, il casse les machines. À Chaillan, la lune rousse était montée dans le ciel encore rose, et assis sur le parapet du pont de Lernay pour fumer, je l'avais montré sans aucun succès aux passants. Je désespérais un peu de rencontrer encore une âme disposée à une conversation quand, au soir d'une marche de près de 40 kilomètres, j'arrivais à la Dorée. Un vieux monsieur que je pris pour un fermier goûtait l'air du soir contre une grange de bois. Il me proposa de passer la nuit chez lui dans sa maison, bordant un pré humide. Sa femme prépara des crêpes. Une botte de beurre y passa, comme chez tous les Normands, dit-elle. C'était un dîner de haute Mayenne avec de douces gens qui alimentaient la conversation de souvenirs. J'étais charpentier. Je me suis blessé à 40 ans. On me donnait pour invalide, mais 10 ans plus tard, le pied raide, je suis parti marcher sur les sentiers de randonnée. On l'appelait le vagabond, dit sa vieille épouse. J'ai traversé la France pendant 30 ans, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, tout y est passé, en boitant. Tous les ans, il faisait un voyage, je le suivais en camion. Un jour, j'écrirai mes souvenirs, mais j'ai le temps. Mon père est mort à 100 ans et je n'en ai que 80. Ils me racontèrent les batailles qui déchirèrent la Normandie après le débarquement, les contre-offensives de Mortain, de Falaise, dont ils se souvenaient, et le bon déroulement de leur vie paisible et réglée. Celle que je n'arrivais pas à organiser car les jours filaient sans que je parvienne à triompher de la panique. Ils me préparèrent une chambre. Et je jetai quelques notes sur mon carnet, d'où il ressortait que j'avais presque autant marché que mon vieil hôte, mais que cela ne m'avait pas suffi à considérer que j'avais encore du temps devant moi. Le 28 octobre, le bocage mayonnais. Au petit déjeuner, je compris ce qui me plaisait le plus chez mes hôtes quand nous regardâmes le journal télévisé débiter son hachis. Premièrement, ils ne commentèrent rien. Enfin, ils évoquèrent la région et entrecoupèrent toutes leurs phrases de « nous nous plaisons ici ». Bref, ils appartenaient à un peuple rare, les gens qui se taisent et s'enracinent. Dans les collines de la Haute-Mayenne s'aventuraient les premiers ambassadeurs de la Manche, les mouettes et les hortensias. On enveloppait le poisson dans Ouest-France et il y avait des ardoises sur les toits. La mer s'annonçait. Dans les arrière-plans brumeux d'un vallon se dessinèrent les ruines d'une abbaye. Je traversais le bois, m'appuyais sur les coteaux, je m'allongeais souvent pour observer les nuages. Le plus pieux métier du monde. À Saint-Hilaire-du-Harcouët s'ouvrait l'ancienne ligne ferroviaire de Ducey à Mortain. Les rails n'étaient plus en place, mais la coulée existait toujours, fusant plein ouest sous un boyau de feuillage. Un châtaignier rouge feu en avance sur ses frères vert de gris donnait le signal de l'automne. Les anciennes gares de briques étaient encore debout. Il s'était joué là les terribles épisodes de la bataille de Normandie. Ce que nous prenions 60 ans plus tard pour l'avancée évidente des Alliés sous les vivats du peuple libéré avait été plus âpre que prévu. Le bourbier du bocage, selon l'expression de Bivor, lu ce matin dans la maison de la presse, avait ralenti l'avance anglo-américaine. La paix était revenue et avec elle, le pouvoir des forêts s'était rétabli et la douceur de la nef verte protégeait à présent le marcheur sous un froissement de feuillage qui électrisait la nuque. Le 29 octobre, la baie. La coulée amenait au pont de Pont-au-Bon, qui avait permis le passage de Patton et de ses troupes débarquées. Il avait initié la perfusion de la liberté par l'ombilic de la géographie. La Célune, sous les arches du pont, rechignait à mourir dans les vases de la lagune. Un chemin longeait l'estuaire par les prés salés vers Avranches. C'était pour moi la dernière manche, la remontée du Cotentin jusqu'au cap de la Hague, où le territoire s'effondrerait dans la mer. J'avais choisi de longer la côte occidentale pour que mon oreille gauche jouisse de la musique du Ressac. Sur l'autre façade, celle du débarquement, j'aurais été privé de la respiration de la marée. Être sourd d'une oreille n'est pas grave, si l'on sait prévoir l'endroit où se tenir. À table, à l'orchestre, sur les péninsules, la vie est question de positionnement. Je marchais à foulée calme. 2 mois de cet exercice avaient lancé en moi une mécanique de clepsydre que rien n'arrêterait. Le matin, j'éprouvais encore de vives douleurs dans le dos. 3 ou 4 kilomètres en venaient à bout. Un rouage actionné longtemps s'huile de lui-même. La marche avait aussi ses effets d'alambic moral, dissolvant les scories. Tout corps, après sa chute, pour peu qu'il s'en relève, devrait entreprendre une randonnée forcée. L'effort depuis le Mercantour faisait son office de rabot, ponçait mes échardes intérieures. Je demeurais ce soir-là assis sur un banc de pierre contre le mur d'une maison devant les prés salés. En face, la ligne de côte de Cancale. Au nord, la brume gazeuse de la mer et du ciel. Au sud, une lumière de tableau italien. C'était le moment de faire mes dévotions à la marche, à ma mue, à ma chance. Sur les chemins de Provence, j'avais peiné à poursuivre mon ombre. Dans le massif central, j'avais senti flotter des pensées inamicales. Ici, dans un monde lavé d'iode, où croisaient des oiseaux en tenue de gala, il me semblait glisser paisiblement. Partout, les chemins noirs m'avaient gratifié de leur double vertu. Effacement du corps, liberté d'action. Un nouveau dérèglement physique m'affligeait depuis 3 jours. L'insomnie intégrale. Les nuits coulaient goudronneuses et leur refus injuste m'enrageait. L'œil ouvert, gisant, j'attendais la levée des crous de l'aube. Je me levais alors, hagard, m'habillais, titubais vers la prochaine halte, pensant aux déambulations nocturnes de Cioran dans le Bucarest de son adolescence qu'il arpentait à pas de mort-vivant avant qu'il ne comprît la nécessité de devenir fou plutôt que d'essayer de dormir. Une nuit, rentrant chez lui, il avait trouvé sa mère sanglotant sur un tabouret de la cuisine. Elle l'avait attendu pendant des heures. Elle l'avait regardé et avait murmuré « J'aurais dû avorter ». L'insomnie était cette répétition générale de la mort sans la bénédiction de l'accomplissement. Ma mère s'était souvent plainte de ce néant sans repos. Moi, j'avais la jouvence des journées de plein vent. L'amitié des herbes, la silhouette des arbres, les saisons, les clochers. Cela valait mieux qu'une mer neurasthénique des Carpates. La C marqua un angle. Le mont Saint-Michel jaillit au-dessus des herbes. Le stupa magique était là. Et des nuées de passereaux explosant dans l'air jetaient leurs confettis pour le mariage de la pagode avec la lagune. C'était le monde des 4 éléments. À l'eau, à l'air et à la terre s'ajoutait le feu de ceux qui avaient la foi. Ces types du XIIe siècle n'avaient tout de même pas manqué d'audace d'avoir osé planter leur autel dans une fondrière devant un système de purge d'eau, de remodelage de vases, de circulation des courants, de migration d'oiseaux et de bruissement des roseaux. C'était l'éternel qui voisinait avec l'éphémère. Mais il fallait comprendre que l'éternel résidait dans les échanges gazeux de la boue, les évacuations lagunaires et l'éclosion des larves. L'éphémère était la tentative de l'homme d'enraciner ses fables sur des rochers. Une illusion d'optique faisait imaginer que les roseaux inversaient les principes de la physique. Leurs plumeaux semblaient soutenir la masse. Des faucons chassaient dans les herbes iodées. Le ciel déployait un lavis couleur perle derrière le roc. Ah, si Peggy avait été de la Vranchin au lieu que de la Beauce. Voilà donc, nous avons terminé ce soir ces passages, ces extraits de ce récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres lectures dans nos Lectures en liberté. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.